One, two, three.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéen.
Je suis Adeline Grattard.
Je suis Marine Diaye.
Et ce soir, elle nous entraîne dans le décortiquage de la cuisine littéraire et de l'écriture gastronomique.
Ping-pong. La culture sans limite. Oh, yeah. Édito.
La culture sert à tout, même à vénérer des graines. Hier, a ouvert au parc des expositions de Villepinte, le SIAL, le Salon international de l'alimentation, et sous le parrainage étoilé de Joël Robuchon, le salon met cette année en vedette ce que ses promoteurs appellent l'aliment doudou. Ces ingrédients simples, purs, bruts ou peu transformés, et qui sont censés soigner. Aliment doudou, pas tout à fait la blanquette, l'objet transitionnel de Donald Winnicott, ni la blanquette de chez nous, les alicaments chouchous de cette édition sont en effet les algues et le quinoa. Vous savez, cette graine venue des hauts plateaux boliviens est cultivée depuis, dit-on, 6000 ans et que les Incas considéraient comme sacrée. Les légendes racontent en effet qu'on plantait chaque année le quinoa avec une pépite en offrant un verre de jus de maïs fermenté et des feuilles de coca à Pachamama, la terre-mère, pour la remercier de ce bienfait, considéré comme une miette, un reste tombé d'un divin banquet. Une miette dont le cours a récemment nourri une bulle spéculative atteignant près de 10 000 dollars la tonne, c'était en 2013, avant que cette bulle éclate, ne s'effondre, ce qui a poussé les petits agriculteurs andins à abuser des pesticides pour améliorer les rendements. Une miette d'or donc, au goût amer et qui ne manque pas de sel, quand on sait que les exportateurs boliviens et surtout péruviens sont désormais assis sur des tonnes de quinoa chimiques qui pourrissent dans des entrepôts, alors que l'ouverture du Salon international de l'alimentation hier coïncidait avec la Journée mondiale de l'alimentation, parrainée cette fois par l'ONU et dédiée à la lutte contre le gaspillage. Trêve de confiserie, le SIAL, donc le Salon international de l'alimentation, vous invite à déguster quinoa, spiruline et autres graines de chia, cette sauge mexicaine, jusqu'au 20 octobre au parc des expositions de Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Adeline Grattard, avant qu'on ne parle peut-être de votre rapport éclairé au gaspillage, est-ce que vous pourriez nous désigner un ingrédient sacré et peut-être même divin dans votre cuisine qui a des airs de temple païen ?
Je pense que chaque ingrédient, en fait, ressemble à un temple païen parce que c'est, on utilise des produits vraiment de haute qualité, donc tous les produits on les respecte et tous les produits qui interviennent dans une recette ont leur importance. Donc je ferai pas plus attention à homard breton, je ferai plus qu'à du beurre doux qu'à du maquereau. Le geste avec lequel on l'aborde, il est pareil, c'est le respect. Et pour souligner ce contre-gaspillage, je pense qu'on ne peut plus se permettre de gaspiller. Il y a eu beaucoup trop d'abus et maintenant on commence à faire attention. C'est dommage que ça soit seulement maintenant, mais nous, c'est notre rôle cuisinier de faire attention à ça et c'est très important.
Marianne Diaye, elle respecte tout le vivant aussi, hein, votre chef, dont chef Roman d'une cuisinière, et elle a quelque chose de divin. Cette chef, j'ai trouvé par exemple cette phrase, travailler, se démener et souffrir souvent, et immoler son repos, et pour ainsi dire, toute vie privée et familiale sur l'autel de la cuisine admirable. Est-ce qu'il y a quelque chose de divin aussi dans votre vocation d'écrivain que vous avez transmis à cette chef ?
Oh non, je ne pense pas du tout. Je vois pas les choses ainsi. Bien sûr qu'il y a au départ dans la démarche d'écrire, mais dans le goût d'écrire et dans l'ambition de devenir écrivain, quelque chose qui échappe à la compréhension que l'on peut avoir de soi-même. On ne sait pas exactement d'où ça vient, mais on sait en tout cas que ça vient en partie du goût de la lecture, déjà. Et ensuite, c'est beaucoup plus affaire de discipline et de travail et d'obstination que d'inspiration divine. Enfin, c'est, alors, tout ne peut pas se ramener, évidemment, au travail, à l'ambition, mais c'est quand même, il me semble, ce qui importe. Et le reste, c'est de l'inexpliqué, mais de l'inexpliqué qui, je pense, pourrait trouver une explication si c'était intéressant pour un auteur de se pencher dessus.
Marie Ndiaye et Adeline Grattard sur l'autel de la cuisine et de la littérature admirable dans Ping Pong ce soir.
Mathilde Serrel, Martin Kénéen, Ping Pong. C'était une petite pièce à l'arrière de la maison. Carrelage couvert de sable et que le large tronc pelé d'un pin planté juste devant l'étroite fenêtre à barreaux rendait obscur à tout moment de la journée. Et cependant, la chef éprouva en y pénétrant une sensation de bonheur toute neuve. Elle eut l'impression, pour la première fois, d'entrer en un lieu qui serait le sien, et rien que le sien. Il y avait une gazinière récente et un vieux fourneau à bois, des marmites nombreuses, des casseroles et des poêles de toute taille, et tout un fatras d'épices et de condiments périmés, pareil à des cendres en pot, que la cuisinière avait accumulé en prenant soin de n'écrire aucune indication, aucun nom. Jalouse de ses secrets, pensa aussitôt la chef, qui n'était cependant pas mécontente de ce qu'elle découvrait, puisqu'il s'avérait, table rase déjà faite du passé de la cuisinière sur cette scène, qu'elle n'aurait aucunement à marcher sur les brisées de celle-ci. Elle n'en dit rien aux clapots, elle ne leur dit rien de ce qu'elle éprouvait. Elle ne leur avoua pas son émotion de trouver dans cette petite pièce sévèrement gardée par un vieux pain planté tout devant les éléments neufs d'une allégresse et d'une tension de l'esprit qu'elle ressentait pour la première fois. Dont elle avait eu l'amorce lorsque, le soir dans son lit, elle dressait mentalement les listes de menus, de plats parfaits, de corrections à ceux dont elle avait mangé. Mais rien que l'amorce ou l'illusion, et voilà que la réalité de cette allégresse, de cette tension de l'esprit, voilà que leur plénitude se déployait dans tout son jeune corps de 16 ans avide, comme elle disait, de s'y mettre enfin.
Par la voix de Romain de Bec-de-Lièvre et les textures sonores de Thomas Beau, notre réalisateur, vous avez entendu un extrait choisi de La Chef, roman d'une cuisinière, paru aux éditions Gallimard, votre nouveau roman, Marie Ndiaye. On le voit, on approche de manière, on va dire, constrictor. C'est un petit peu comme ça qu'on a décrit votre style, en tout cas en boa constrictor, en serpent. L'approche de cette chef et cette révélation, cette épiphanie aussi, puisqu'on était dans le spirituel, qu'elle va avoir dans cette cuisine, de s'y mettre enfin, de cuisiner. Comment est-ce que vous avez abordé les mots de la cuisine dans ce roman, puisque vous n'avez pas finalement fait d'approche documentaire, mais plutôt un ressenti littéraire sur ces mots-là?
En effet, je n'ai pas mené la moindre enquête pour écrire sur la cuisine. Je me suis contentée en quelque sorte des émotions, des impressions, des sensations que j'avais pu ressentir moi-même en préparant un repas d'importance, que ce soit pour une occasion exceptionnelle ou pour un grand nombre de personnes. Et en repensant à la manière dont j'élabore mon repas mentalement, à la manière dont plusieurs jours auparavant, j'imagine ce que je vais faire, ce que je vais acheter, mais les tons aussi que j'ai envie d'apporter, les textures, les sensations finalement que j'ai envie de faire procurer à mes invités. Je me suis dit que ce serait sans doute suffisant, en tout cas c'était mon intention, pour décrire les émotions de cette chef qui, elle, contrairement à moi, est une cuisinière professionnelle.
Mais précisément, cette cuisine des sensations, Marie Ndiaye, c'est aussi... Ainsi qu'on décrit le travail d'Adeline Grattard. Vous vous parlez de cette ambition de votre chef de faire naître des sensations. Il y a une volupté qui se lit sur les visages des clapots, donc qui sont ses premiers employeurs et qui décident de lui permettre de s'y mettre quand elle a 16 ans dans une maison de vacances des Landes. Une partie du plaisir de ce travail d'écriture, était-ce parce qu'il y a quelque chose d'indicible au fond dans la cuisine? Quand c'est délicieux, c'est quasiment impossible à dire. Soit on pousse des jurons, soit on dit c'est une tuerie, ou je sais pas quelles expressions on peut se permettre. Mais pour
ou
vous,
alors
plaisir,
c'est trop obscène parfois aussi.
C'était ça, c'était d'approcher l'indicible comme justement un défi littéraire.
Tout à fait. C'était d'essayer de comprendre. Alors là, je me place plutôt du côté de la de la cuisinière que du côté du mangeur. Je n'essaye pas de décrire les sensations du mangeur, mais c'est un peu la même chose, puisque la chef essaye de se représenter les futures sensations du mangeur. Et ça m'intéressait surtout d'essayer de comprendre ce qui se passe dans l'esprit de cette femme qui voue toute sa vie à la cuisine et qui certes essaye de procurer un certain plaisir aux mangeurs, mais qui se méfie aussi de ce plaisir et qui aimerait leur procurer en quelque sorte plus que cela et mieux que cela, et des fois presque l'inverse de cela.
Adeline Grattard, justement, vous voulez réagir, oui.
Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que...
Vous êtes chef, je le précise à nouveau.
Et est-ce que la chef se fait... Son but, c'est de se faire plaisir à elle ou de faire plaisir ?
Alors, c'est presque ni l'un ni l'autre. Son but, c'est surtout pas de se faire plaisir. Si le plaisir vient, elle en est... très contente, elle ne le repousse pas, mais ce n'est pas ce qu'elle cherche. Quant au plaisir du client, du mangeur, c'est plutôt pour l'appâter, puisque sans plaisir, il ne reviendra pas. Et une fois pris, une fois qu'elle l'a attrapé, son but est d'essayer justement de lui faire ressentir autre chose que du plaisir. Mais quoi, elle ne sait pas exactement, mais quelque chose qui serait moins simple, en tout cas, que le pur plaisir.
Et vous, Adeline Grattard, justement, dans votre recherche d'écriture gastronomique, il y a des mots qui reviennent chez Marianne Diaye où on se rend compte qu'il y a aussi dans un menu un incipit, un épilogue. On sent qu'il y a quelque chose de l'ordre de la construction, pas d'un roman, mais presque, oui, d'une œuvre littéraire. Vous, quand vous construisez, qu'est-ce que vous avez en tête dans cette écriture-là?
Effectivement, un menu se construit. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a un ordre dans les saveurs. On ne peut pas attaquer avec quelque chose de très fort, de très brutal. Et il faut déjà que le mangeur s'installe et puis découvre un environnement, se sente bien. Donc c'est vrai qu'il faut l'appâter un petit peu avec des choses douces. Et ensuite, c'est là arrive où on doit construire, il faut donner du relief. Il faut faire monter et redescendre et remonter. Et ça, c'est pas toujours évident.
Comment, justement, racontez-nous comment on monte, on redescend et on remonte?
Non, c'est par les saveurs, les épices, les textures. On peut très bien exciter un peu avec quelque chose de croquant au début, mais pas quelque chose qui est trop long à mâcher, parce qu'on tombe dans l'épuisement directement. Donc ça, les textures sont très importantes, les goûts, les liquides aussi. Il faut alterner des mets secs, des mets liquides, des soupes, des textures bien, bien différentes des unes des autres.
Et il y a des facilités auxquelles on renonce? Parce que la chef de Marianne Diaye, il y a quelque chose qui l'agace dans la clôture doucereuse du dessert. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qu'on a en tête, ne pas aller dans cette facilité, surprendre?
Je pense que le dessert, c'est vraiment le... Enfin, pour moi, c'est mon ennemi, le dessert. j'aimerais vraiment savoir le dompter, mais c'est quelque chose qui a toute son importance dans un repas et ça pose beaucoup de difficultés au chef.
Demain, d'ailleurs, vous tournerez autour du dessert puisqu'on a reçu en avant-première, peut-être mondiale, ce soir c'est fermé puisque vous êtes à nos côtés, Yamcha, votre restaurant rue Saint-Honoré à Paris. Mais demain, ce sera autour de la poire avec de l'oseille et de l'orgeat. Marine Diaye ?
Oui, j'aimerais vous demander si dans la manière dont vous pratiquez, il y a aussi l'idée de faire aux mangeurs un effort qui soit peut-être pas exactement à la mesure du vôtre, mais quand même un effort.
J'ai eu un peu cette envie, enfin de plus à mes débuts où je devais imposer et bon, chez moi c'est comme ça, donc voilà. Lui, je pense qu'il n'a jamais mangé de boudin frit avec une soupe de nouilles et crevettes séchées, et j'ai envie de lui faire manger parce que ça va le choquer. Et voilà, oui, il y a eu ça. Mais maintenant, je pense que je suis plus vraiment dans une notion de mon but, enfin ma recherche est vraiment de faire passer des moments où j'aimerais que les gens n'aient rien à dire quand ils sortent de chez moi. Et ça, je pense que...
On est exactement chez Marine Diaye et son ambition, voilà. La cuisine indiscutable de sa chef.
Mais c'est ni critique positive ni négative, c'est simplement par la nourriture arriver à passer un moment qui est un petit peu hors du temps. De toute manière, il est éphémère. La cuisine, les plats sont éphémères et provoquent des sensations assez courtes au final. Assez courtes, mais arriver à transporter quelqu'un sur autre chose en le faisant manger, ça c'est intéressant.
Marine Diaye, il y a la question des sensations qu'on ressent au moment où on déguste, le mangeur ou la mangeuse déguste, mais il y a aussi toute l'élaboration des plats qu'on peut observer d'ailleurs chez Yamcha, le restaurant étoilé d'Adeline Grattard à Paris, puisqu'elle est derrière une vitre et on peut même l'observer depuis la rue. Vous, on vous observe dans les phrases de la chef Roman d'une cuisinière, avec notamment cette expression, cette phrase que j'ai retenue, les vœux des clapots, donc qui sont ses premiers employeurs, ses premiers mangeurs à déguster la cuisine de votre chef, leurs vœux sont flous, contradictoires, irréalisables. Et on trouve souvent, chez vous, des adjectifs concaténés qui sont ajoutés les uns après les autres, comme une volonté de toujours aller à la fois plus loin et plus près dans la description de toute la complexité de la réalité et des sensations dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que pour vous, ça se rapprocherait, votre façon de tourner votre phrase, d'une recette où on rajoute l'un après l'autre, des ingrédients pour justement complexifier la sensation?
Oui, on peut voir les choses ainsi. En même temps, il y a recettes et recettes. Il y a aussi des recettes où on met très peu de choses. Donc il y a des phrases simples et des phrases, en effet, plus élaborées, plus difficiles même à apprécier pour le lecteur. C'est très facile en effet de trouver entre la cuisine et l'écriture toutes sortes d'analogies, c'est même des fois trop évident, donc on s'en méfie un peu aussi, mais des fois ça colle. Hein.
Mais sans être dans cette analogie qui nous tente, finalement, vous nous avez appâté, Marianne Diaye. Maintenant, nous y sommes entre la cuisine et l'écriture gastronomique, comme on le disait, et l'écriture littéraire. Il y a aussi une autre analogie, en tout cas quelque chose de troublant, c'est peut-être votre rapport à vous avec cette chef, cette héroïne, cette femme puissante, une de vos femmes puissantes. Il y a 30 ans d'écriture chez Marianne Diaye, c'est une chef qui a aussi beaucoup écrit en cuisine, qui a beaucoup composé de plats, et on sent dans sa manière de recevoir son étoile, dans sa manière de recevoir les compliments, une sorte de quête spirituelle, d'honnêteté intellectuelle, de maîtrise de ce qu'on est, de ce qu'on doit envoyer à l'extérieur. Est-ce que ce sont des questions qui sont celles de Marianne Diaye, finalement, de la Marianne Diaye qui reçoit son Goncourt, par exemple?
Oui, ça se ramène finalement à des questions de morale, hein, mais de morale au sens sa propre morale. Et bien sûr que dans certaines situations où on est honoré et récompensé, cela fait extrêmement plaisir. Et puis d'ailleurs, si on ne tient pas à l'être, on peut aussi refuser. Donc, quand on accepte, il faut le faire avec grâce. Mais bien sûr qu'il faut essayer aussi de rester fidèle à, oui, une morale qu'on tricote en soi-même, qu'on élabore vis-à-vis de soi et à l'encontre de laquelle on essaye de pas trop aller, en tout cas.
Adeline Grattard, on a commencé cette conversation avec un extrait de La Chef, roman d'une cuisinière, avec l'entrée de cette chef à 16 ans dans sa première cuisine. Vous nous décririez votre première cuisine, la première cuisine où vous avez fait vos armes?
Oui, je peux la décrire. C'est un souvenir très très précis. C'était à Arnay-le-Duc, en Bourgogne. Et c'était avant de commencer ma première année de cuisine. Je suis allée travailler 15 jours dans ce restaurant. Ça s'appelait le Relais de la Poste. La cuisine m'a paru énorme, assez vieille quand même. Je pense que j'étais jamais rentrée dans une cuisine professionnelle et propre. Rien, il y avait rien qui traînait. Toutes les surfaces, il y avait pas des petites choses comme à la maison où on trouve partout. Et tout était cadré, très propre. Et c'était froid, en fait. C'était très, très froid. J'ai le sentiment aussi d'avoir eu froid, parce qu'on rentrait dans les chambres froides et j'étais pas du tout habituée à ces changements de température, qui sont dans le métier, enfin, c'est à considérer. Quand on rentre dans les chambres froides, c'est surprenant. J'ai le souvenir de ça.
D'où peut-être vos envies de feu par la suite.
Donc la première chose à faire, évidemment, c'est mettre à fond dans le chocolat au bain-marie. Et il faut à peu près 6 carrés de chocolat. Et surtout, de rien lui rajouter, de le garder très croquant, comme ça. Caractère musqué, qui rappelle un peu les odeurs de peau. Savoureux de toi. Donc j'ai moulé la bouche de mon grand amour, qui était en train de tirer une langue, mais qui a sculpté sa langue en la tirant pour qu'elle ressemble à une fraise. Je comble le vide dans le moule de la langue avec de la pâte d'amande. Parce que la pâte d'amande a cette faculté de ressembler aussi à la surface de la langue. Ensuite, on met à chauffer. Là, je vais aller chercher un petit récipient pour préparer notre crème. L'idée, c'est que ce qui remplit la coque de la peau est une odeur de parfum d'être aimé. Alors, je me lèche les doigts avant, parce que j'en bave déjà. Je commence par sucer la langue, moi. Je commence par l'amande, qui va nous préparer la bouche, comme ça. Puis après, il faut manger ça comme un sushi croqué dedans. Mais bon. Est-ce qu'on entend croquer les os? On s'en fout partout en plus. Il y a une côté régressif. C'est ça qui est bien. En plus, comme personne ne nous voit, hein, j'aime bien quand c'est un peu cracra. Donc on passe du joli au lait aussi. On renifle de la chair. C'est une recette cannibale. C'est du cannibale sucré. Maintenant, elle est en moi.
Maintenant, elle est en moi, nous dit l'artiste Philippe Maillot au terme de cette recette cannibale sucrée qu'il avait proposée aux Passagers de la Nuit. C'est une archive France Culture de 2010. Mais dans La Chef, votre nouveau roman, Marine Diaye, il y a aussi quelque chose de cannibale dans la relation que cette chef entretient avec sa fille, mais plus encore, et j'y reviens, à ce premier repas tellement important qu'elle prépare, cette chef, à l'âge de 16 ans, où elle a l'impression d'être en eux, dans les mangeurs, au terme de ce qu'elle leur a préparé. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette intuition et de cette sensation cannibale?
Elle a l'impression d'être en eux, car elle a surtout l'impression de les connaître beaucoup mieux qu'ils ne se connaîtront jamais, et peut-être mieux qu'elle ne se connaît elle-même. Elle, par le plaisir qu'elle leur a procuré, elle les a fait siens, enfin, elle les a entièrement, possédés, domptés, soumis, mais avec...
Ensorcelés, dites-vous.
Ensorcelés, oui.
Et dans votre approche, justement, de ces rapports avec la fille, est-ce qu'il y a quelque chose d'assez métaphorique, finalement, qui se glisse? On a l'impression qu'on a presque une parabole aussi du monde aujourd'hui, dans cette façon de gens à qui on peut avoir affaire, qui arrivent dans un restaurant, qui restructurent, qui imposent de nouvelles règles, une nouvelle clientèle, presque de règles du marché, de standardisation des choses. Est-ce que vous êtes comme ça dans une évocation parabolique parfois, ou justement c'est quelque chose dont vous vous méfiez, Marine Diaye?
Oui, je m'en méfierais plutôt. J'essaye de rester à un niveau très pratique, réaliste en quelque sorte de la description. Et ce que fait cette fille qui arrive avec des idées de modernisation qui ne sont pas toutes néfastes, mais qui pour un certain nombre d'entre elles le sont, pour que l'argent entre plus encore, etc. C'est pas non, c'est pas pour dire que malheureusement c'est ce qui arriverait aujourd'hui, ou non, c'est ce qui arrive dans cette histoire là plus simplement.
Est-ce que vous avez une approche élargie finalement de la littérature par le biais de cet objet cuisine que vous travaillez par cette héroïne de la chef? Parce que c'est vrai que on vous a vu dans le théâtre, on vous a vu à l'écriture d'un livret, on vous a vu en compagnie de Claire Simon pour White Material. Est-ce que dans la cuisine, dans cette écriture-là, vous ne retrouvez pas un peu plus de cette littérature élargie que vous construisez au fur et à mesure?
Ce qui est amusant avec ce roman, je me rends compte, c'est que jamais on ne me parle autant du contenu, du sujet que dans les romans précédents. Là, par exemple, je suis invitée avec Adeline Grattard, on veut aussi me faire rencontrer des chefs, et je deviens soudain, et c'est assez troublant, comme une experte de ce propos de la cuisine, ce que je ne suis absolument pas, mais c'est, tout ça est plutôt amusant. Mais je me rends compte aussi que ce qu'il peut y avoir de séduisant, voire de séducteur comme ça dans ce que j'ai fait, c'est que il y a un grand plaisir en effet soudain à évoquer davantage le sujet que ce qui peut être autour, mais c'est voilà.
Adeline Grattard.
Mais moi, je trouve que ce qui est très intriguant, c'est que justement, vous n'ayez pas fait d'études documentaires, Marie, et en fait, on peut de là tirer une conclusion, c'est que l'histoire de la cuisine, quand on cuisine, c'est avant tout une sensation. Il ne s'agit pas d'avoir un regard professionnel de restaurateur. Là, vous arrivez à décrire une femme qui cuisine dans le but de recevoir, de commercialiser, mais en fait, vous êtes inspiré de vous-même. C'est comme recevoir chez soi la même sensation de vouloir, d'avoir peur, de pas savoir, de choisir, d'étudier. C'est cuisiner, c'est pas forcément être professionnel dans un restaurant. C'est la même démarche. One, two,
three. Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui reçoit elle aussi chez elle au studio 108 et qui, comme la chef de Marine Diaye, espère vous soulever au-dessus de votre gourmandise, même si vous venez d'abord par gourmandise.
Ping Pong. La culture sans limite.
Si, dans le roman de Marine Diaye, la chef recherche des compositions idéales, celles dont elle serait éblouie elle-même. Si, cette analogie entre l'écriture gastronomique et l'écriture littéraire nous a tant séduit, c'est aussi qu'on pourrait la rapprocher de Lee Shields et de son aventure musicale, qui lui aussi cherche inlassablement, composition après composition, la plus belle et la meilleure. Lee Shields, qu'on a découvert aux côtés de Cool and the Gang en première partie, Sammy Gordon, O.W. Wright, bref, c'est une légende de la musique soul. Il en a fait depuis l'âge de 17 ans, un petit peu comme votre chef, Marianne Diaye, à sa révélation à l'âge de 16 ans. Lee Shields compose pour que chaque mot puisse parfaitement être entendu lorsqu'il chante, et essentiellement les mots qu'il a adresse à sa femme dans ce magnifique Special Night, qui est aussi le titre de son nouvel album Lee Shields en live sur Nova. Oh, sur France Culture. Ben voilà, fallait que ça arrive un jour.
Every night is a special night when I'm with you, girl. When I'm with you, the way you hold me in your arms, oh so tight. The way that you do, girl, the way that you do. And I don't mind the hustle and the bustle and the grind, 'cause it's all worth it because of you. See, I was just a sad and lonely man, living in a lonely world. Then you came and took my hand. Now my prayers have been answered. I just wanna be your man. Let me thank you, thank you, thank you. I wanna thank you, love. Every night is a special night when I'm with you, girl. When I'm with you, the way you hold me in your arms, oh so tight. The way that you do, girl. The way that you do. The hustle and the bustle and the grind, 'cause it's all worth it because of you. See, I've been all alone for so long. I thought no one would come along. Then you appeared straight out of heaven, and I'm gonna thank you by singing this song. Let me thank you, thank you, thank you. I wanna thank you, love. If you don't know what it's like to be lonely, then you can't know how I feel. Said it feels so good when somebody loves you. Yes, it feels so good when somebody cares. Every night is a special night when I'm with you, yeah. When I'm with you, where you hold me in your arms oh so tight. The way that you do, girl. The way that you do. Every night is a special night when I'm with you, girl. When I'm with you. The way you hold me. The way that you do, girl. The way that you do. Thank you.
Thank you. Lee Fields dit thank you à l'adresse donc de sa chère et tendre pour ce special night. Un nouveau disque absolument sublime si vous aimez vous égarer sur les voies rocailleuses de l'âme. Lee Fields à l'instant dans Ping Pong. Merci. Thank you.
Merci beaucoup.
是我，如果有多张船飞
Ping Pong, c'est sur France Culture.
你会不会跟我一起走啊？
Frisson à l'autre dans Ping Pong pour cette deuxième partie. Nous quittons Lee Fields et sa Special Night pour d'autres nuits, des nuits moites, des nuits troubles, des nuits saturées de désir, celle, vous l'aurez sans doute reconnu, qu'a filmé Wong Kar-wai film après film dans les rues de Hong Kong. Ici, c'est bien sûr la fameuse bande-annonce d'In the Mood for Love avec ses corps et ses regards, ces corps qui se croisent entre Tony Leung et Maggie Cheung qui va chercher des nouilles. Et il se trouve, Adeline Grattar, qu'avant d'ouvrir Yamcha rue Sauval et aujourd'hui rue Saint-Honoré à Paris, au 121 rue Saint-Honoré, et de cueillir une étoile en particulier avec votre restaurant, vous avez rencontré l'amour en la personne d'un Hongkongais, mais aussi travaillé à Hong Kong. Est-ce que vous pourriez... Puisque là, voilà, on est dans les rues tortueuses d'Hong Kong avec notre thermos, nous décrire pour vous les paysages de cette ville et peut-être les paysages de cuisine d'Hong Kong.
Oui, effectivement, après quelques années passées dans les cuisines en France, notamment à l'Astrance, où j'ai quand même fait mes armes et travaillé pratiquement 3 ans, j'avais déjà rencontré Chihua, donc mon mari, qui est un Hongkongais, qui vivait en France à l'époque, depuis quelques années, et nous avons décidé de partir vivre une expérience là-bas. Donc j'ai travaillé presque 2 ans, j'ai appris énormément, j'ai découvert plein de choses. Je connaissais Hong Kong, on s'y était déjà arrêté pour voyager, pour visiter la famille de Chihua, mais... Là, ça a été vraiment pour moi décisif dans mon parcours. J'ai appris à découvrir plein de choses, à me laisser tenter par des produits que je n'aurais jamais consommés avant, des huîtres séchées, des moules séchées. Excusez-moi, mais quand on est européen et quand on voit ça, même le trottoir dans la rue, ça fait pas très envie. Et le fait de passer du temps, de chaque jour aller au travail à pied, de chaque jour passer au marché. Et à un moment, on se dit, peut-être essayer quand même.
Et, vous étiez dans une robe fourreau comme Maggie Cheung pour aller au travail à pied?
Pas vraiment. Déjà, je pense que j'aurais pas le physique qui me permet de le porter ça. Mais non. J'étais en veste de cuisinière. Il faisait, à mes débuts, c'était au mois de juin. Il faisait très, très chaud. Et je me souviens ruisseler en portant mes cabans en plastique et tous les produits que je ramenais du marché. Et j'ai eu beaucoup de chance de travailler pour un chef. Alvin Leung, le chef du restaurant Bow Innovation, qui me laissait faire ce que je voulais. Il voulait que je participe à sa recherche et ma mission était sur le chemin de passer au marché, d'acheter ce que je voulais, ce qui me tentait, et ensuite d'en faire quelque chose. Donc j'étais aussi complètement dans l'inconnu et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire ça.
Adeline Grattar, vous y êtes allée à l'aveugle, à l'odeur des produits, vous y êtes allée... à l'instinct, et forcément t'as paru en résonance avec Laurent Marienza, la chef romande d'une cuisinière chez Gallimard, parce que à un moment cette chef elle est au sommet de son instinct. C'est comme ça que vous l'écrivez, Marienza. Est-ce que ça vous arrive, vous, Adeline Grattar, dans ces quêtes spontanées, dans ces quêtes à l'époque à Hong Kong et dans vos quêtes aujourd'hui, de vous sentir au sommet de votre instinct?
Non. Pas vraiment, et heureusement, sinon il faudrait que j'arrête de travailler immédiatement, parce que je pense que si on est au sommeil, on ne peut que redescendre après.
Ça peut être éphémère. Hein.
Non, j'ai pas parfois, je suis contente, j'ai l'impression que c'est bon, que les gens se régalent, et je suis contente, j'ai une satisfaction, mais être au sommet, ce sera peut-être que j'aurai réussi à réaliser un bon dessert.
Il n'y a pas des instants où vous vous sentez particulièrement inspirée, parce qu'on sent que c'est aussi une histoire de quête d'inspiration qui se dérobe comme dans beaucoup d'art, et qu'il y a des moments de concentration ultime, il y a des moments où ça sort comme jamais.
Si, c'est vrai, il y a des moments où j'ai beaucoup plus d'inspiration que d'autres, beaucoup plus d'énergie, et les réalisations... parlent plus, les plats sont meilleurs, bien sûr.
Marine Diaye.
Oui, j'aimerais vous demander, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais ce qui vous rebute ou ce qui vous résiste dans les desserts, alors c'est quoi? Il se passe quoi avec le dessert?
Je pense que c'est un manque de technique, en fait. Et j'ai du mal à m'appuyer sur la technique traditionnelle pâtissière. Mais si je la maîtrisais, j'arriverai à parfois, par exemple, j'ai un chef pâtissier dans mon restaurant, parce que je ne me charge plus de réaliser les desserts, de me faire comme une danette à la pomme. C'est ma fixation, là, j'ai envie de faire une danette à la pomme, mais sans produits laitiers, sans beurre, sans produits laitiers. Et donc, il a fait quelques essais la semaine dernière qui ne sont pas concluants. Donc, il faut qu'on travaille encore beaucoup. Et en fait, ce qui se passe dans la pâtisserie, c'est qu'il faut faire des essais parce qu'il y a une technique derrière. Alors que dans la cuisine, moi, je ne fais jamais d'essais. Ce que je cuisine au jour le jour, il sort pour les clients. Et c'est peut-être ça qui me rebute, ou que je n'ai pas envie d'approcher, ou alors que je ne sais pas faire.
Marine Diaye, il y a pourtant une recette de dessert qui semble venir à l'instinct et sans technique à votre chef, donc La Chef, roman d'une cuisinière, votre nouveau roman qui vient de paraître chez Gallimard. C'est une recette de tarte aux pêches.
Oui, alors, contrairement, bien sûr, à ce qui se passe dans la cuisine d'Adeline, ma chef, quand elle élabore son premier repas, elle n'est pas cuisinière, elle n'est évidemment pas chef. C'est une toute jeune fille de 16 ans qui s'initie à la cuisine, et cela, d'ailleurs, dans les années 60, ce qui change aussi beaucoup la manière dont on peut envisager ce qu'elle prépare, puisque à l'époque, évidemment, il n'y a pas, enfin, très très peu, les épices, les mélanges de sucre et salé, enfin, tout ce qu'on est habitué maintenant à manger n'existait, pour ainsi dire, pas en France. Donc, ce qu'elle fait est traditionnel, et elle cherche avant tout, d'ailleurs, à éblouir, à être exceptionnel, à être remarquable, mais dans un sens qui ensuite ne lui conviendra plus.
Et jusque dans la radicalité, parce que c'est ça aussi, sa tarte aux pêches, c'est une entreprise de cuisine radicale.
Oui, parce qu'elle essaie que cela procure à ses deux employeurs aussi peu de plaisir que possible.
On voit dans ce personnage de la chef un refus d'être dans le commentaire qu'elle va avoir du mangeur, dans l'évocation de la sensualité, même si le geste peut être dans la sensualité, dans la façon dont c'est ensuite expliqué, dont c'est décortiqué, dont c'est ressenti par le mangeur, une espèce de proximité comme ça, un peu facile, avec le plaisir charnel, les mots qui sont évoqués. Comment est-ce que vous aimez qu'on parle de votre cuisine, Adeline Grattard? Comment est-ce que vous aimez qu'on l'aborde? Et est-ce qu'il y a aussi des choses qui vous repoussent dans les commentaires des mangeurs?
En fait, je n'aime pas bien qu'on parle de ma cuisine ou qu'on me demande de parler de ma cuisine. Ça, je pense que c'est le pire. Une autodescription, un autoportrait, c'est terrible. Mais on est obligé d'écouter ce que les mangeurs ont à dire quand ils veulent s'exprimer. Et c'est très dur d'aller à contrario, parfois, de ce qu'ils n'ont pas compris ou de ce qu'ils n'ont pas ressenti. Et il y a comme un espèce de mur qui se crée, parce qu'on voudrait rentrer en symbiose. Il y a une personne qui fait et l'autre qui reçoit, et on aimerait tomber d'accord, mais comme l'intention n'est pas ressentie comme ce qu'elle est vraiment, c'est très difficile de s'entendre, je pense.
Il y a des mots pourtant qui relient les mangeurs, puisqu'on emploie ce terme que nous a proposé, a mis sur notre table Marine Diaye en début d'émission, et les chefs, qu'ils soient hommes ou femmes. Il y a notamment des histoires, de la fiction chez vous, dans votre restaurant Yamcha. Moi, j'ai eu l'honneur, le bonheur, le plaisir, la joie d'y dîner un soir, et en particulier votre sommelière vient raconter des histoires qui sont dignes du Guépard, de Leopardi, mis au cinéma par Visconti. On a l'impression qu'on est aussi dans la fiction. On a besoin de ça, de fiction, d'histoire, de roman.
Ça, déjà, sur le sujet du vin, c'est bien différent. C'est encore autre chose. Le vin, il est dans la bouteille. Et notre sommelière va effectivement raconter une histoire pour le présenter. Mais le vin, il ne pourra pas le changer. Alors que la cuisine, les plats, on peut les changer. Chaque assiette, on peut la changer.
Et vous vous gardez de raconter des histoires autour des plats?
Je pense que je les raconte dedans et qu'il n'y a rien, il n'y a pas à côté, il n'y a pas de cinéma. Chaque assiette a son histoire, a son parcours.
C'est une question de vérité et d'honnêteté aussi, le geste.
Je pense que oui, d'honnêteté et de quelque chose qui est parfois irréparable parce que c'est fait et l'assiette, elle s'en va alors qu'on aurait aimé mettre quelque chose d'autre. On a une idée au moment où elle s'en va. Et là, on peut écarquiller les yeux, mais c'est trop tard.
Et votre rapport aux mots, on y revient forcément, pardonnez-nous Marine Diaye, mais cette relation qu'on imagine avec Mathilde depuis le début de l'émission entre les aliments et les mots. Il y a cette phrase dans votre roman, la chef s'inclinait intérieurement devant eux, donc les aliments, elle leur rendait hommage, elle leur avait de la gratitude, elle les honorait de son mieux, légumes, herbes, plantes, animaux, elle ne dédaignait, ne gaspillait, ni n'abîmait rien. Vous, quand vous travaillez, puisque votre travail ce sont les mots, vous êtes dans une attitude comparable, je dirais, de dévotion?
Ah non, du tout, non.
Vous les malmenez, vous les transformez, comme fait votre chef, lors
oui,
de son premier repas?
Oui, puis surtout, ce sont des outils que je peux traiter mal éventuellement. Enfin, j'ai pas de respect sacré comme ça pour les mots. D'ailleurs, ce serait peut-être handicapant, ce serait peut-être difficile d'avancer si on était dans cet état-là vis-à-vis des mots. Mais ce qui m'intéressait aussi finalement dans ce projet d'écrire sur une cuisinière professionnelle, c'est que eh bien, souvent, les cuisiniers professionnels ne sont pas des romanciers et les romanciers ne sont pas des cuisiniers professionnels. Donc, ça me semblait difficile et du coup, un défi intéressant, moi qui ne suis pas une cuisinière professionnelle, d'essayer de faire comme si j'avais pu en être une et que je sache aussi être une romancière. Faire la rencontre entre ces deux métiers qui n'ont pas de raison, parce que on peut pas avoir 1000 vies dans sa vie, de se rencontrer.
Vous faites chauffer de l'huile dans une sauteuse. Vous y faites revenir le riz. Vous ajoutez les petits pois, vous mélangez. Coupez la crêpe en fines lanières. Vous ajoutez au riz, vous mélangez. Vous versez sur le plat de service. Vous parsemez de jambon coupé en fines lanières. Chacun ajoute de la sauce de soja, si il aime ça. Vous mangez avec des baguettes. Oui, enfin, moi je prends ma fourchette.
Moi, je prends pas mes baguettes, je prends ma fourchette. Mais c'est Anne-Marie Pesson. Voilà, si vous cherchez son nom, elle a un petit côté Brigitte Bardot. Nous sommes en 1976 et c'est un disque de recettes. Et vous pouvez notamment donc cuisiner le riz cantonné en écoutant ce disque. Adeline Grattard, on a choisi le riz cantonais, puisque votre restaurant Yamcha, c'est un mot cantonais qui désigne la dégustation matinale de dim sum avec du thé. Votre rencontre amoureuse qui est à l'origine de ce projet de cuisine, c'est aussi avec un sommelier du thé. Donc comment est-ce que voilà, vous travaillez cet accord mets-thé?
On essaie avant tout de trouver une harmonie. Il existe plusieurs familles de thé, donc ça c'est pas difficile à déterminer. Après, c'est y a des catégories de saveurs qui comme le vin, ben, qu'on va choisir un vin blanc ou un vin rouge, ça c'est assez, ça va de soi. On va mettre un vin rouge avec une viande rouge et pas un vin blanc. Donc le thé, c'est la même démarche que la sommellerie du vin. Après, on peut, contrairement au vin, jouer beaucoup dans les temps d'infusion, dans les températures servies, pour au mieux accorder et rentrer en harmonie avec un plat.
Donc, par exemple, on a envie d'avoir une harmonie, peut-être dans la carte qu'on a de demain, avec le homard sauté poivron sauce xo, ou avec le bar vapeur épinard tomatillos agrumes.
Je pense que oui, voilà, il y aura toute une sélection de thés proposés. L'accord peut-être le plus percutant que Chio a trouvé, ça va être sur le premier plat, un plat à base de champignons, de coulis de foie gras, où là on est sur des saveurs de sous-bois, et il proposera un thé pu'er de 10 ans d'âge, donc un thé très fermenté et qui rappelle le goût de la mousse du bois. Ça, c'est vraiment un de nos meilleurs accords. Après, sur le homard saucixo, je pense qu'il mettra un thé bleu, un thé houlon, c'est possible. Et sur le poisson, qui a une saveur plus verte et citronnée, bah, un thé vert.
Mais alors, là, on parle de champignons, on parle de thé, de sensations avec vous, Aline Grattard et Marine Diaye, depuis le début de notre conversation. Le thé peut remplacer le vin, qui a des vertus, on le sait, qui prête à l'ivresse. Et vous êtes en vedette dans une série télévisée, disons-le, Aline Grattard, produite par la chaîne américaine Netflix, qu'on trouve actuellement. Vous êtes dans la saison 3 de Chef's Table, série documentaire, avec un épisode tout entier qui vous est consacré, qui vous suit à Hong Kong et bien sûr à Paris, rue Saint-Honoré, dans votre restaurant Yamcha. Et vous dites, je ne sais pas s'ils mettent des potions magiques dans le thé à Hong Kong, mais ça rend dingue, c'est magnifique, on est complètement défoncé au thé. Est-ce qu'on peut espérer des expériences hallucinogènes
Oui.
Rue Saint-Honoré.
Hallucinogènes. Non, pas chez moi, parce que vous n'aurez pas le temps d'en boire assez. Mais quand on passe une journée à boire que du thé, je vous assure que vous êtes dans un drôle d'état en fin de journée. Déjà, vous tremblez, vous ne voyez plus rien. Enfin, c'est les pouvoirs de la théine sont remarquables.
Et les pouvoirs de la littérature, ils peuvent faire ça au terme d'une journée de travail? Sur le plan de travail, Marine Diaye?
Trembler, ne plus savoir où on est, chez moi, non, jamais.
Mais puisqu'il y a des accords mettés chez Aline Grattard, je me demandais si lorsque vous vous mettez à l'écriture, Marine Diaye, parce que j'avais lu que vous aimiez bien relire une page des auteurs qui sont vos compagnons d'écriture, ça peut être du Dickinson, du Sylvia Plath, du Claude Simon, qui sont là autour de vous. Qu'est-ce que, dans un accord écriture du jour et compagnon littéraire pour l'écriture, voilà, est-ce que vous réfléchissez, par exemple, pour écrire ce roman, Chef, roman d'une cuisinière, est-ce que vous étiez sur un accord particulier dans vos auteurs de prédilection? Est-ce que vous recherchez une note, justement, comme ça, avant l'écriture?
Non, parce que je me rends compte que ce sont toujours les mêmes auteurs, et ce qui compte, c'est vraiment pas ce qu'ils disent. Par exemple, Claude Simon, je lis presque tout le temps une ou deux pages de histoire ou des géorgiques avant de me mettre à écrire, alors même que ce dont il parle n'a rien à voir avec ce dont je parle. C'est vraiment là simplement la musique des phrases, le rythme des phrases qui me font comme une mise en jambe, un échauffement mental.
Il y a toujours les mêmes lectures chez Marine Diaye avant de se mettre à l'œuvre. Et il y a aussi, pour son héroïne, sa chef, toujours une ou deux recettes dont elle ne peut se départir, qu'elle n'arrive pas à abandonner et à laisser sortir de la carte de son restaurant. Est-ce que pour vous, Aline Grattard, il y a aussi une recette que vous n'arrivez pas à abandonner?
Il y a des éléments, en fait, dans le menu. C'est pas une recette du début à la fin, un plat. Mais c'est par exemple la sauce XO, c'est quelque chose que je n'ai pas inventé, ça vient de Hong Kong, mais c'est quelque chose qu'on fait nous-mêmes, qu'on a beaucoup de mal à faire, et ça intervient toujours lors d'un menu.
Alors il y a du cognac dans la XO, en
un
mot?
Un petit peu, mais en fait c'est extra old. C'est parce que c'est fait avec tous des fruits de mer séchés, crevettes, Saint-Jacques, jambon du Yunnan, beaucoup de produits qui sont nobles en fait. Et comme à l'époque à Hong Kong, l'importation du cognac était réservée, enfin c'était quand même très privilégié de pouvoir consommer du cognac comme la sauce XO, et je pense qu'ils l'ont appelé comme ça. Et par la suite, on a commencé à mettre du cognac dedans.
Il n'y a pas que la théine alors, chez Yamcha. Merci Aline Grattard et Marianne Diaye. Ping pong. C'est déjà fini.
Merci à toutes deux. On est en effet déjà dans le dessert minimaliste. Marine Diaye, donc la chef roman d'une cuisinière, c'est votre nouveau roman publié chez Gallimard. Quant à vous, Aline Grattard, on peut vous voir à l'œuvre depuis la rue 121 rue Saint-Honoré, mais on peut aussi entrer à l'intérieur et découvrir les murs bleus comme chez Marine Diaye et dorés de Yamcha.
Le ping-pong est une petite cuisine radiophonique qui se prépare en équipe. Nous n'avons pas pu résister. Et quelle équipe ! À la rédaction, Aïssaïe Touendoï, Jeanne Aléos, Seam Boutata, Elisa Bozès. À la réalisation et la programmation musicale, Thomas Beau. À la prise de son ce soir, Jacques Azubert et Clément Daté.
Le ping-pong se pratique aussi sur l'internet, mais demain sur les ondes à 19h. Rendez-vous avec Bruno Dumont pour la sortie en DVD de son dernier film Malout et les quatre réalisateurs associés du pétard à dents Willy Premier.